heures de l'après-midi.
Il est 18h.
Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Ah, entrez. Je suis contente de vous revoir. Vous êtes nouveau par contre. C'est super. Prenez place. On va continuer à parler de rêve sous toutes ses formes à travers un nouveau corpus de documentaires et fictions sonores réalisés par les étudiants du 10 AV 2024-2025 de l'INA Campus. Je m'appelle Julie Malcourt et je vais vous guider dans ce voyage sonore. Nous allons démarrer ce voyage avec le documentaire sonore « Le rêve d'Eléa » de Simon Pack.
Je m'appelle Eléa Jaguelin, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en études d'anglais à la fac. Je suis une personne assez dynamique, on va dire. J'essaye de jamais me laisser abattre par les choses et notamment par la maladie. Et j'essaye de faire en sorte que quand on parle de moi, c'est pas la chose qu'on retienne de moi. Voilà, pas qu'on dise que je suis Eléa malade, je suis Eléa. Et j'ai cette particularité en plus qui fait que j'ai pu connaître rêve.
Je suis Josette Gonneau, la présidente de l'association Rêve et le dernier membre fondateur. Donc, je fais partie des personnes qui ont créé l'association le 5 février 1994. On est vraiment l'association qui réalise le rêve de l'enfant. Le rêve est construit du moment où l'enfant va quitter le domicile jusqu'au moment où l'enfant va retourner à son domicile, c'est-à-dire petit pas à petit pas. C'est tout le parcours du rêve qui va construire l'enfant.
J'ai deux pathologies. J'ai une pathologie du tissu conjonctif, donc ce qui colle les uns entre eux. Et entre guillemets, pour faire un court résumé, c'est que moi, j'en ai pas. Donc, c'est pas très simple. Plus précisément, c'est la maladie d'Ehlers dans l'os. Après, il y a plusieurs formes différentes. Moi, j'ai la forme hypermobile. Donc, ça fait que je suis hyper laxe. J'ai beaucoup de douleurs tout le temps, partout dans le corps. Bah, comme tu peux voir là maintenant, je suis en béquille, mais au stand où on est, j'ai mon fauteuil roulant. Et en plus, j'ai une maladie qui fait que j'ai pas de défense immunitaire. Je suis immunodéprimée, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, j'ai tendance à un peu m'attraper tout ce qui court. Donc c'est pas très simple. J'ai des perfusions toutes les semaines en intraveineux pour renforcer mon immunité, pour pas que je sois malade toutes les semaines, ce qui était le cas quand j'étais petite. À l'époque, donc je devais avoir 5 ans et on a connu Rêve à l'hôpital où j'étais suivie. Et du coup, ils nous ont expliqué qu'est-ce que c'était et le processus, en fait, surtout pour en bénéficier. Parce que c'est vraiment un lien avec l'hôpital, les parents et l'association. Quand j'ai intégré l'association, ils m'avaient demandé du coup qu'est-ce que je voulais comme rêve. Et mon premier rêve, ça a été d'aller à Disney pour rencontrer Blanche-Neige. Ça a été mon premier rêve en janvier 2011. Et quelques années après, j'ai eu une aggravation de la maladie. On m'a proposé de faire un deuxième rêve. Donc pareil, à l'époque, j'avais donné plusieurs choix de rêves. Et dans un de mes rêves, il y avait... je voulais rencontrer M. Pokora.
À partir du moment où la demande de rêve est acceptée, l'enfant devient un enfant rêveur. L'enfant rêveur, c'est celui qui attend son rêve, mais aussi les enfants qui ont réalisé leur rêve. C'est très porteur parce que les enfants rêveurs qui sont en attente de rêve, potentiellement, ils sont encore bien malades. Et ils vont rencontrer des enfants rêveurs qui ont réalisé leur rêve il y a des années en arrière. Ces enfants rêveurs vont dire à ce jeune enfant rêveur, « Vous voyez, nous, on est passé par là, mais aujourd'hui, ça va bien. »
Ça permet à l'enfant de se libérer. C'est pas négligeable dans la vie d'un enfant malade. Dans les instants comme ça où il y a des coups de mou, c'est pas négligeable en fait ce genre de moment. Ça peut paraître inimaginable quand on est enfant de se dire bah, je vais réaliser un rêve, je vais rencontrer Blanche-Neige, je vais rencontrer M. Pokora.
Donc j'ai retrouvé Eléa à Paris sur une salle de concert. Elle avait 8 ans, Eléa. Elle était toute mignonne. L'hôpital avait accepté qu'Eléa ait une permission de sortie pour pouvoir rencontrer Matt Pokora. Et donc, on était dans le hall d'accueil, et puis d'un seul coup, elle a défailli, elle est tombée, elle a fait un malaise. Hein. Bah, la première chose qu'on a fait, c'est d'appeler les pompiers. Les pompiers sont arrivés, et Léa, donc, vous imaginez une toute petite fille de ses 8 ans, donc elle était allongée par terre, elle a regardé les pompiers, elle a regardé sa maman, et puis elle a dit « Mais moi, je ne partirai pas avec vous. Moi, j'ai rendez-vous avec Matt. Je ne partirai pas avec vous. » Et elle s'est relevée. C'était totalement extraordinaire. Un coup de pied à la maladie.
Ça m'étonne même pas que j'ai dit ça. Franchement, ça m'étonne même pas. C'est tellement moi de dire « Non, non, je vais aller au bout de mes forces. » On m'avait fait le rencontrer en décembre 2013. À la comédie musicale Robin des Bois, qui était au Palais des Congrès. Je m'en souviens, on m'a amené devant la loge de Matt et il est arrivé adorable. Il m'avait proposé de visiter les coulisses. Donc on avait été dans les loges, dans les autres loges des membres de la troupe. Et j'ai encore la photo, elle est imprimée sur mon mur et tout. Sur la photo, il est agenouillé à côté de moi, il me prend par la taille et... du coup, il s'est mis à ma hauteur parce que forcément, il y avait un petit décalage de hauteur. Même sur la photo, je pense qu'on sent qu'il est adorable et ouais, que j'étais là en mode toute contente avec mon petit sourire et tout, avec mes petites dents. On est juste concentré dans le moment en fait. Et ça fait énormément de bien moralement. Surtout à des périodes où voilà, il y a des aggravations, on est dans la maladie, on fait des allers-retours à l'hôpital. C'est vraiment quelques heures qui nous permettent de nous libérer mentalement et c'est très réconfortant.
J'ai eu l'impression d'avoir pas du tout affaire à la même enfant. C'était totalement extraordinaire. La métamorphose entre le mutisme et puis cet enfant qui était pratiquement désinhibé quand on est rentré, je me suis dit, waouh, c'est fort. C'est vraiment fort. Quand on a fêté les 25 ans de l'association à Paris, on a invité tous les enfants à venir passer une journée au musée des Arts Forains. À un moment, j'entends Josiane. Je me retourne, je dis « Eléa ». Je l'ai reconnue tout de suite. Elle avait gardé sa petite bouille de petite fille trop jolie. Et du coup, on a fait un selfie. Sur le fond, on voit Rêve hein, avec des étoiles jaunes. Et puis, donc le logo de l'association, c'est marqué Rêve. Et on voit donc une grande adolescente, puisqu'elle paraît plus grande que moi sur la photo, avec deux couettes, des petites lunettes et un grand sourire. Et puis à côté, on voit Josiane qui a posé sa tête contre la tête d'Eléa. Et puis on sourit, toutes les deux. Alors on pourrait penser qu'on sourit bêtement au photomaton, mais non, en fait, on sourit à toutes les deux.
C'est vrai que Rêve a vraiment eu une part très importante dans ma vie et aura toujours cette part très importante dans mon cœur. Parce que ils m'ont suivi depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans. J'en ai 19, donc... Ils font vraiment partie de ma vie et je les oublierai jamais. J'oublierai jamais tout ce qu'ils ont fait pour moi et ce qu'ils font encore pour moi.
Je trouve que la vie est bien faite, même si des fois elle est pas tendre avec les enfants, avec les grands, avec les personnes âgées, mais en tous les cas, elle vaut le coup d'être vécue. Et je pense que le rêve y participe vraiment. Alors, je vous disais, il faut vraiment que l'enfant s'extrait de ce traumatisme, de cette réduction. Il est malade, il est très malade, certes, mais la vie continue, quel que soit le nombre de jours, de semaines, de mois, d'années où elle va durer, que ce soit court ou que ce soit très long, l'important, c'est de la vivre très, très fort, quoi. Et vraiment, je trouve que cette histoire avec Eléa, enfin, pour moi, je l'oublierai jamais, hein. Je ne m'oublierai jamais.
Je ne pourrai jamais assez la remercier pour ce qu'elle a fait pour moi. Surtout que elle m'a accompagnée sur mes rêves. Et juste en fait de la remercier, de dire que c'est une personne qui compte énormément pour moi, que je l'aimerai toujours, qu'elle aura toujours une place importante dans mon cœur. Juste un grand merci, que je l'aime fort.
Accompagner quelqu'un dans son rêve, c'est un si beau privilège, un si grand partage, lui permettre d'avoir des étoiles plein les yeux. Vous ne trouvez pas? C'est de cela dont on va parler juste après, mettre des étoiles dans les yeux, en rencontrant des marchands de rêves avec Vertige virtuel de Franck Dieuhead.
Mesdames et messieurs les visiteurs, la foire du trône est ouverte. L'ensemble des industriels forains ainsi que la ville de Paris vous souhaitent une journée des plus agréables et divertissantes. La Régidéa.
Alors, on est surtout venu pour les attractions à sensations fortes.
À 11h, les collègues, ils sont là. Mais je te donne un laissez-passer, d'accord? Ce qui te permet de pouvoir rentrer sans que personne ne soit obligé de te donner l'autorisation. Avec ça, tu vas éviter les fouilles. Enfin, je sais pas, mais bon, tu verras. Et tu dis, appelez Sekou, il est à la régie. Sekou, il est au courant. Sekou, tu te souviendras, Sekou?
Sekou, oui.
Voilà, c'est bon. Ça marche?
Moi, je serai là. J'y gère à peu près tout ce qui se passe sur ces sites. Quand il y a un litige, que ce soit entre les forains ou avec le public, quand il y a des blessés, il y a la bagarre, quand il y a une coupure d'électricité, un truc comme ça, c'est moi. Dès que la police municipale me donne le top, moi je donne le top départ. Si tu veux, tu mets la voix d'une femme, si tu veux, tu mets la voix d'un homme. Mais nous, on a préféré la voix d'un homme. Le message passe mieux. Pas qu'avec la femme, ça ne passe pas, mais avec l'homme, la voix de l'homme, ça passe mieux, plus fort.
Peur et frayeur à chaque instant, le train fantôme vous attend.
C'est la première fois qu'on vient.
Cette année, c'est la première fois.
Non, c'est la première fois.
Non, c'est pas la première fois. J'ai 3 ans.
Bah, c'est depuis que moi j'ai l'âge de 16 ans que je venais déjà avec mes copines. Et là, j'ai 39 ans bientôt, donc je viens avec mes enfants.
Les autres manèges, c'est pas comme ici, c'est pas comme la foire des trônes. Non, la foire des trônes, c'est un peu chaud, voilà. Voilà, c'est la plus grande, c'est la plus grande foire à la région parisienne.
J'estime qu'on fait le plus beau métier du monde parce qu'on est des marchands de rêves et qu'on est là pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Quand on est sur une fête foraine, on redevient un enfant, on redevient un petit garçon ou une petite fille. C'est le seul endroit, la fête foraine, où vous voyez le patron et son ouvrier s'amuser ensemble. On ne vous demande pas combien vous gagnez, on ne vous demande pas si vous êtes diplômé. Une fête foraine, vous êtes là pour vous amuser. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même vous amuser à la foire, parce que vous vous promenez dans les allées de la foire, vous voyez le spectacle de la foire. Alors, ça a changé, ça a évolué, forcément. La société a évolué, la technologie, Internet a fait évoluer la fête foraine, mais l'esprit du forain, d'être un amuseur public, de donner du bonheur aux gens, de les faire rire, de pouvoir jouer avec eux. Il n'y a que chez nous qu'on sait faire ça. Parce qu'on a 6 générations, 5 générations, pour certains, une ou deux seulement. Malheureusement, ceux-là sont plus des marchands de soupe que des marchands de rêves. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'une partie de la population voudrait bien nous éradiquer pour prendre notre place. Une petite partie, très très riche, mais eux, ils ne savent pas faire ça. On a un savoir-faire, on a quelque chose en nous qu'ils n'auront jamais. Quand vous allez dans un parc d'attractions, vous n'allez pas y chercher la même chose que sur une fête foraine. Parce que dans un parc d'attractions, ben, peut-être qu'il y a des belles lumières comme sur une fête foraine, peut-être qu'il y a des jolis décors en carton-pâte comme sur une fête foraine, mais il n'y a pas cet esprit. Quelqu'un qui va vous raconter que moi j'ai une petite araignée magique à qui je donne de la poudre de perlimpinpin pour qu'elle me fabrique de la barbe à papa, parce qu'elle tricote la barbe à papa que pour les enfants sages qui se brossent bien les dents. Et si vous ne vous brossez pas les dents, elle va le savoir parce que c'est la cousine de Spider-Man, et elle va venir me le dire, et la prochaine fois que vous viendrez chez moi, vous aurez une toute petite barbe à papa. Vous n'avez pas ça dans un parc d'attractions. Ils ne savent pas faire. Il n'y a que nous. Si vous vous promenez sur la foire, vous allez voir beaucoup d'enfants de forains qui se promènent, apparemment seuls. Sauf qu'ils ne sont jamais seuls. On connaît tous les enfants de tout le monde, on surveille tous les enfants de tout le monde, et si on leur voit faire quelque chose qu'il ne faut pas, on va intervenir. Parce que c'est comme ça qu'on élève un enfant. On les élève dans le respect, on les élève dans le travail, on les élève dans l'amour de notre métier, de nos traditions. On leur apprend très tôt la valeur du travail, la valeur de l'argent, mais on leur apprend aussi le sens de la fête. Parce que pour aimer donner du bonheur aux gens, il faut être heureux. Et pour savoir ce que c'est que faire rire les gens, il faut être capable de rire.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. France Météo nous annonce un épisode de vent violent nécessitant une vigilance particulière. Soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
Fermez les barrières. C'est bon ? Allez, c'est parti.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite à un incident technique, nous procédons à la fermeture momentanée de la foire. La régie DAB.
Mais vous savez, il n'y a pas que dans les foires et les trains fantômes que se cache la peur. Les cauchemars et les mondes parallèles en sont des lieux tout désignés. Matteo Matussi fait dériver le rêve pour nous plonger en plein cauchemar dans une adaptation du livre d'horreur « La maison des feuilles » nommée « Histoire de Tom » avec le compositeur Alt 236 et le comédien Jules Chanu. Tiens-moi la main si tu veux.
D'un point de vue aussi objectif que possible, la maison offre ses faits indiscutables. 1.0, pas de lumière. 2.0, pas d'humidité. 3.0, pas de mouvement d'air. 4.0, la température est de 0 degrés Celsius, plus ou moins 4 degrés. 5.0, pas de bruit. Hormis un grondement sourd qui s'élève par moments. 6.0, les boussoles n'y fonctionnent pas. Les radios ont une portée limitée. 7.0, les murs sont d'un noir uniforme avec une légère nuance cendrée. 8.0, il n'y a aucun élément de décoration. 9.0, la taille et la profondeur varient considérablement. 9.1, l'endroit peut changer de géométrie. 9.2, certains ont estimé que ce grondement sourd ou grognement était causé par ces métamorphoses. 9.3, aucune extrémité n'a été trouvée. 10.0, l'endroit se purgera de toute chose, y compris de tout objet laissé dedans. 10.1, on n'y a jamais trouvé d'objet. 10.2, il n'y a pas de poussière. Durant l'exploration 2 de la maison, Holloway a dérapé vers le meurtre et le suicide. Durant l'exploration 3, Navidson descendra l'escalier en spirale pour secourir Wax et Jeb. Tom servira de relais radio entre Navi et Karen. Jour 1, 10h38.
Soyons sérieux. Un endroit pareil est forcément hanté. Voilà ce qui est arrivé à Holloway et à son équipe. Les fantômes les ont eus. Et c'est ce qui va nous arriver à Navi et à moi. Les fantômes nous auront. Sauf qu'il est avec Reston. Il n'est pas seul. Je suis seul. Les fantômes s'en prennent toujours à ceux qui sont seuls. En fait, je parie qu'ils sont là en ce moment même.
Jour 1, midi 6. Afin de maintenir le contact, il a été nécessaire d'installer la radio en dehors de la tente.
Tom, on a trouvé une autre balise fluo. Il n'en reste presque plus rien. Juste un lambeau. On laisse du fil et on continue.
Entendu, Navy. T'as pas vu de fantôme?
Rien. T'as peur?
Je m'en allume un gros.
Si tu tiens pas le coup, rentre. On se débrouillera.
Va te faire, Navy.
Quoi?
Karen, c'est Tom.
J'attendais ton appel. Comment va Navy?
Il va bien. Il a trouvé une autre balise.
Comment tu t'en sors?
Moi? J'ai froid, je crève de trouille, j'ai l'impression que je vais me faire bouffer d'une minute à l'autre. À part ça, je dirais que ça va.
Jour 1, 18h38.
C'est ridicule, j'ai rien à faire ici. Personne n'a rien à faire ici. Je suis un plouc. J'aime mon prix frais, pour moi c'est ça réussir. Je suis pas un héros, je suis pas un aventurier, je suis Tom la brave pomme, Tom le grassouillé, Tom le défoncé, Tom va se faire bâcler.
Jour 1, 21h09.
Je me sens pas bien.
Jour 1, 23h46.
Réservons un vol pour les Bahamas.
Tu veux dire réserver un vol pour toute la famille?
Hé, je ferais mieux de raccrocher, j'ai pas envie de me retrouver avec une batterie à plat.
Dis-lui que je l'aime, Tom.
C'est déjà fait.
Jour 2, 10h57.
Tom, tu me rends. T'as toujours aucun signe des... J'ai trouvé quelques balises. Sérieusement, en avoir ras-le-bol de son bras. Pars à leur recherche. Tac, dans quelques heures.
Jour 2, 13h27. Jour 2, 15h49.
Karen, je commence un peu à avoir les crocs ici. Tu crois que tu pourrais me commander une pizza?
Quoi?
Quand le livreur viendra sonner, dis-lui juste de la porter au gros, au bout du couloir, à 3 bornes sur la gauche.
Tom, peut-être que tu devrais rentrer.
Jour 2, 19h04.
Merci. J'en ai assez.
Jour 2, 20h03.
On a entendu quelque chose. On est sur le chemin pour voir ce que c'est. Enfin un signe d'écoute.
Jour 2, 22h09.
Comment va Karen?
Pas terrible, Lévi. Elle a très peur. Vous devrez remonter ici.
Pourquoi? Répète.
Lévi?
Jour 2, 23h07.
C'est vraiment des conneries. Tu m'entends, Mister Monster? Non mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Pas de lumière, pas de chauffage, pas même de plomberie, ça fait 2 jours que je chie dans ce coin et que je pisse contre ton mur. Ça t'énerve pas un peu, Mister Monster? J'ai chié dans ton coin, j'ai pissé contre ton mur. Bien sûr, la pisse a séché et la merde a disparu. T'avales tout, c'est ça? Tortue, étron, pour toi c'est du pareil au même. Connard sans discernement! Ça te rend pas malade, moi ça me rend malade! Ça me donne envie de gerber!
Jour 3, minuit 54.
On est dans la merde.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais,
je t'en rappelle.
T'as tiré sur Jeb. Teigne.
Tiré?
Putain, merde!
Qui a tiré?
Tom, faut que tu me rejoignes.
Lévi,
je vais essayer de remonter, Waf. Ouais.
Je te reçois mal, Lévi. Lévi, est-ce que tu m'entends? Lévi, à toi.
Jour 3, 1h28.
Ça va au moins nous prendre 8 heures pour revenir au mât. Retrouve-moi en bas. On a besoin de toi. On peut le porter nous-mêmes. Et puis tu as tous les soins. Karen et 18 nous trouvent un doc.
Jour 3, heure inconnue.
Ça fait presque 3 jours que je suis dans ce trou à rats et maintenant tu veux que je descende seul là-dedans? Ce n'est pas si terrible. Va te faire, Mister Monster, ouais. Va te faire. Tu es là, n'est-ce pas, Mister Monster?
Jour 3, 7h53.
Ça va? Vous n'étiez pas trop angoissé? Moi, un peu. Vous savez quoi? Pour se détendre, je vous propose d'aller visiter un autre laboratoire. L'atelier des rêves de Jérémy Chevillard. Et d'y partager une expérience d'écriture et conception sonore entre des enfants et un ingénieux du son. Avec le compositeur Antoine Cardin et les comédiens Thibaud Dreher et Thomas Claret. C'est trop canon, vous allez voir.
Ce soir, c'est la chasse aux loups. Sortez les chiens.
Peut-être que quand quelque chose se passe mal, ses pouvoirs pouvaient venir dans ses rêves et lui prévenir.
Allez, bouge-toi de là, toi.
Voilà, parfait.
Bonjour.
J'aime cette préparation, Arthur.
Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Jérémy et moi je fais des études du coup dans le son.
Alors, mon but aujourd'hui, c'est qu'on va créer tous ensemble une histoire, une fiction sonore.